Chapitre 7. Comment rendre compte de la mobilité sociale. Grand 1. Les différentes formes de mobilité sociale. Il existe plusieurs types de mobilité. Un individu peut connaître une mobilité professionnelle, changement d'emploi, de métier, une mobilité géographique, changement de lieu de travail ou de résidence. Elles peuvent s'accompagner d'une mobilité sociale, changement de groupe de CSP ou non. La mobilité sociale peut être intragénérationnelle ou intergénérationnelle, verticale, ascendante, promotion sociale, ou descendante, déclassement social, ou horizontale, position inchangée sur l'échelle sociale. La mobilité sociale intragénérationnelle, ascendante et descendante, s'est amplifiée. Les ascensions concernent plus les hommes. Enfin, la mobilité structurelle est provoquée par les transformations de l'emploi. Grand 2. La mesure de la mobilité sociale intergénérationnelle. Pour mesurer la mobilité intergénérationnelle, on construit des tables de mobilité où les individus en fin de carrière sont classés selon leur groupe socio-professionnel et celui de leur père. Les tables de destinée, en pourcentage du total des pères de chaque groupe, indiquent ce que deviennent les fils d'un groupe social. Les tables de recrutement, en pourcentage du total des fils de chaque groupe, indiquent quelle est l'origine sociale d'un groupe social. La diagonale révèle l'immobilité sociale. Les trajectoires de mobilité observées sont en général courtes et ascendantes. Les employés et professions intermédiaires sont plus mobiles que les cadres ou les ouvriers. La mobilité est contrainte par la mobilité structurelle. La part des cadres, des professions intermédiaires, des employés a augmenté, alors que celle des ouvriers et des indépendants s'est réduite dans l'emploi. Les fils d'agriculteurs sont devenus plus souvent ouvriers qu'agriculteurs et leur auto-recrutement est élevé. La tertiarisation de l'économie, les besoins en salariés qualifiés peuvent expliquer l'importance des mobilités ascendantes. Grand 3. Intérêts et limites des tables de mobilité sociale. Dans les sociétés démocratiques et libérales, contrairement aux sociétés où les statuts sont assignés à la naissance, l'idéal d'égalité des chances et d'efficacité suppose une compétition juste et ouverte des places, quelle que soit son origine sociale. Mesurer la mobilité sociale est un enjeu politique permettant de confronter ces principes à la réalité. Les tables de mobilité sont des outils imparfaits. La population retenue, masculine, française de naissance, 40-59 ans, écarte le plus souvent les femmes pour des raisons techniques, inactivité des mères, et interroge la pertinence d'appréhender la position d'un individu à l'aide de la seule CSP du père, famille recomposée, patrimoine professionnel familial. Le mode de classement des CSP, multicritères, ne permet pas de hiérarchiser les groupes socio-professionnels dont le nombre et la composition font varier les flux de mobilité sociale. Les méthodes d'enquête, où l'informateur indique sa profession et celle de son père, introduisent des biais de réponse selon les milieux sociaux et les sociétés. Grand 4. Mobilité observée et fluidité sociale. Les enquêtes de mobilité de 1953 à 2003 font apparaître une montée de la mobilité observée au détriment de l'immobilité. La mobilité observée se décompose en mobilité structurelle en hausse et mobilité nette en hausse mais régresse après 1993. La fluidité sociale mesure les chances relatives d'accès à des places indépendamment des transformations de la structure sociale s'il y a une égale compétition sociale. Une forte mobilité structurelle n'implique pas une modification de l'égalité des chances relatives d'un fils de cadre et d'un fils d'ouvrier d'accéder à un poste de cadre plutôt qu'à un poste d'ouvrier. Depuis 1977, on observe une plus grande égalité des chances des enfants de cadre comparée à celle d'autres salariés, mais c'est l'inverse pour les enfants d'agriculteurs comparé aux autres groupes sociaux professionnels. Le sociologue qui étudie le vécu des individus mobiles doit compléter l'analyse de la fluidité par celle de la dynamique de la mobilité observée, plutôt ascendante ou descendante. Grand 5. La mobilité sociale selon les générations et les CSP. Les mobilités ascendantes sont plus nombreuses que les mobilités descendantes, mais ces dernières augmentent. Nombre d'enfants occupent désormais une position moins élevée que celle de leurs parents, malgré des études réussies, confirmant le paradoxe d'Anderson. La peur du déclassement, liée au chômage et à la précarité des emplois, excède cependant le déclassement intergénérationnel. Pour Raymond Boudon, le milieu social exerce un effet sur le niveau d'études qui influe sur la position sociale, principe méritocratique. Il explique le paradoxe d'Anderson par l'inadéquation entre la structure des diplômés et celle des positions sociales. L'inflation des diplômés aurait contribué à leur déclassement. Pour Claude Tellot, les liens origine sociale-diplôme et diplôme-position sociale suffisent à expliquer le paradoxe. Les individus nés dans les années 1940 subissaient de fortes inégalités sociales devant l'école, mais leur position sociale était fortement liée au niveau de diplôme. Ceux nés dans les années 1960, qui ont bénéficié d'une scolarité plus longue, ont vu le lien diplôme-position sociale se distendre. Difficultés économiques et dynamique de la structure sociale moins rapide. Grand 6. Le rôle de l'école dans la mobilité sociale. La démocratisation quantitative de l'école, par exemple hausse de la réussite au baccalauréat, ne signifie pas l'égalité d'accès et de réussite à tous les cursus. La ségrégation scolaire est un puissant facteur de ségrégation sociale et spatiale qui affecte la qualité des enseignements. L'élévation du niveau de diplôme accroît les chances d'accès à une position sociale favorisée, mais le rendement social du diplôme s'élève avec l'origine sociale. Pour Pierre Bourdieu, la réussite scolaire est corrélée au capital culturel familial et l'école le transforme en titre scolaire. La culture inculquée à l'école est celle des classes cultivées, ce qui avantage les élèves de ces milieux. Le système scolaire légitime et reproduit les inégalités sociales présentées comme des inégalités naturelles de dons. Pour Raymond Boudon, les inégalités scolaires s'expliquent par le choix rationnel des individus de poursuivre leurs études ou d'opter pour un emploi rémunéré à chaque palier d'orientation, en effectuant un calcul risque, coût, gain, fonction du niveau scolaire de l'élève et socio-économique des familles, en tenant compte du paradoxe d'Anderson. Grand 7. La famille et la reproduction sociale. La réussite scolaire dépend des caractéristiques familiales, origine sociale, structure et taille, diplôme de la mère. La famille peut favoriser l'incorporation du capital culturel lors de la socialisation en transmettant un rapport à l'école favorable à l'acquisition de titres scolaires, forme institutionnalisée du capital culturel et à l'usage des biens culturels. Avec l'explosion scolaire et le chômage, la rentabilité des titres scolaires repose sur le recours à d'autres formes de capital, social et économique, pour les valoriser ou les reconvertir. Les réussites paradoxales trouvent leur origine dans une ambition de promotion sociale ou d'émancipation soutenue par le père et la mère ou un autre membre de la famille, fratrie dans les familles immigrées, et encouragée par des enseignants. Mais le choix homogame du conjoint, la transmission des capitaux économiques, inégalité des héritages culturels et sociaux, contribue plutôt à une certaine reproduction sociale.